Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Deuxième chapitre de cette semaine des 5 heures, c'est bien le chapitre Mardaï, après l'Indaï et avant Mercredaï. Bonsoir mon cher.
Avec le Daï.
En personne.
Bonsoir mon cher Rudy.
Ah bah non, Rudaï.
Rudaï, oui. C'est vrai, Rudaï. Rudaï et le Daï. On est prêt à passer sur une chaîne jeune, nous. Hein. Oh là là, oh là là.
Ah ouais. Quoi couper, c'est Antoine Duhart qui est avec nous ce soir jusqu'à 20h avec, je pense, Hugues, dans ma valise. Votre coffre.
Oui, une interview.
Transport.
Une interview faite à la main, mon bon monsieur. C'est suffisamment rare pour être signalé. Nous savons bien que nous sommes dans l'ère du Zoom et de l'interview à distance depuis l'ère Covid. Et là, c'est une véritable rencontre à Londres, s'il vous plaît. Donc, on aura évidemment le rituel. Pleased to meet you. C'est important de retrouver les traditions.
Une, vous m'en avez vendu deux.
Oui, il y en aura même un extrait d'une deuxième parce que, vu votre curiosité, votre insistance, il y en aura deux. C'est
chouette.
Tout à fait exact.
Donc ce sera surprise.
Surprise.
Pour ouvrir aujourd'hui des nouvelles de Sylvie Kreusch.
Oh bah ouais. Celle qui fait des clips avec des chiens qui font wouf wouf wouf.
Oui.
Ah, j'adorerais
oui.
ça.
Oui, oui. Oui.
Et des grandes robes
oui.
façon un peu
oui.
Kate Bush période oui. âge d'or. Oui. Ah oui, oui.
Qui avait
oui.
aussi des grands chiens.
Oh oui.
Hands of Love.
Hands of Love, oui. oui.
Alors Sylvie Kreusch qui nous prépare, je pense, quelque chose de grand. Pour la fin de cette année,
Aha.
parce qu'elle annonce des concerts en décembre
Aha.
déjà. Mais, sans tarder, elle va arriver très bientôt avec quelque chose de plus petit,
mm-hmm.
en attendant quelque chose de plus grand. Et ce plus petit, ça sera pour le 20 avril, parce que, figurez-vous, qu'elle sera la marraine du Record Store Day.
Ah ouais.
Belge.
Oui,
Belge.
Oui, oui.
Voilà. Et donc, pour l'occasion, elle va sortir un 45 tours vinyle, tiré, je pense, à 1000 copies, qui seront toutes signées, et qu'on pourra trouver uniquement chez les disquaires. Donc, une face A et une face B. En face A, une chanson originale qui a pour nom Comic Trip et non pas Comic Strip,
non.
pas une reprise. En revanche, la face B sera bien une reprise de Lee Hazlewood et Nancy Sinatra, mais la face A nous est déjà parvenue grâce à un vent favorable. Ça sortira le 20 avril.
Je fais le vent favorable.
Très bien. C'est un vent qui est favorable, hein. C'est pas un vent qui va tout décorner. Oui, un petit vent favorable. C'est donc le nouveau Sylvie Kreusch en attendant plus. Et il s'appelle Comic Trip.
Big bold emotions, another frame full of comic scenes. You see the world anew.
Comic Trip, Sylvie Kreusch.
Carré, enlevé, c'est parti.
Pesé.
C'est pour le record. Day.
Oui, le 20 avril.
20 avril.
Samedi 20.
Alors, on a déjà évoqué hier trois films qui vont sortir ce mercredi. Continuons cette revue de détails avec un film qui s'intitule Monkey Man. Rien à voir avec la planète des singes. L'affiche est très graphique, rouge et noir. Avec l'affiche aurait plu au bif. Hein. C'est une affiche bif parce que c'est du en rouge et noir. On sait que ce sont les couleurs du bif. Avec une silhouette d'un homme dans l'encoignure d'une porte en rouge. C'est le premier long métrage réalisé par Dev Patel. Alors Dev Patel, acteur anglais d'origine anglaise, qui a été révélé il y a déjà maintenant de nombreuses années par le formidable Slumdog Millionnaire de Danny Boyle, et puis qui avait fait un tour par la comédie en jouant dans les deux Best Exotic Marigold Hotel plus connu sous le titre chez nous d'Indian Palace. Vous savez, cette histoire de vieux Anglais qui croyaient vivre dans un palace en Inde qui était vaguement rénové par un jeune Indien plein de fougue, joué par Dev Patel. Et depuis lors, il a tourné des choses très différentes. Il a tourné une adaptation assez formidable de David Copperfield, où il jouait carrément David Copperfield. Un film que vous avez vu et que je n'ai pas vu, The Green Knight.
Ah oui.
Un film tout à fait étonnant.
Inspiré d'un poème anglais moyenâgeux.
Voilà. Et donc, il va dans beaucoup de directions différentes. Et la dernière fois qu'on l'a vu comme acteur, c'est dans les moyens métrages de Wes Anderson, d'après Roald Dahl, qui sont disponibles sur Netflix. Et Dev Patel, donc, s'était fait un peu plus rare sur les écrans, et pour cause, puisque il réalise son premier film.
Dans lequel il joue?
Il joue le rôle principal. Il ne s'est pas facilité la vie, le garçon, parce que c'est un rôle très physique. Monkey Man, c'est le surnom d'un lutteur, d'un champion qui monte sur le ring avec un masque de singe. Et derrière ce masque, eh bien, il y a...
C'est Kid Noise.
En plus effrayant, le masque de singe, en moins souriant, j'ai envie de dire, en plus menaçant.
Ah voilà. Ouais. C'est pas Gorillaz non plus.
Non, c'est okay. Plus menaçant, il est pas là pour rigoler. Et derrière le masque, un Indien, dont on ne connaîtra jamais le nom, ça n'a pas d'importance, mais un Indien d'origine très très modeste et qui vit avec un traumatisme. En fait, enfant, son village a été incendié et sa mère a été assassinée par des Indiens beaucoup plus puissants, une sorte de mafia. Il a grandi avec ce traumatisme et il veut à tout prix retrouver les assassins de sa mère. Mais pour ce faire, il doit, c'est pas uniquement un jeu de piste, on est dans un système de caste, on est en Inde, et il doit vraiment essayer d'infiltrer arriver en ville, et là, d'arriver à se faire engager dans le luxueux hôtel casino qui sert régulièrement de QG pour des malfrats, dont les assassins de sa mère. Et donc, il y a d'abord toute la première partie d'infiltration, en quelque sorte, et puis la deuxième partie où on va voir que la fougue de ce jeune homme ne suffit pas et qu'une vengeance se doit d'être bien préparée. Donc, c'est clairement un revenge movie. Et je vous le disais, interview faite à la main, mon cher Rudy, possibilité de rencontrer Dev Patel, que j'avais rencontré il y a très longtemps pour donc Indian Palace, et qui m'avait laissé le souvenir d'un garçon généreux et ouvert. Et je me suis dit, voyons un petit peu ce qu'il lui a pris, pourquoi est-ce qu'il a eu envie de devenir réalisateur. Eh bien, on écoute immédiatement cette interview réalisée il y a quelques jours à Londres.
Dev, very pleased to meet you again for this new movie, and it's Monkey Man is your directorial debut. Then why did you choose the genre of a revenge movie for this first experience?
Oh man, I'm a huge revenge movie fan. You know, I think it's one of the most cathartic experiences, you know, to collectively sit in a huge dark theater with a lot of people and experience an emotion that, you know, you cannot really inflict in real life at risk of either being insane or going to prison. But, you know, revenge is a truly primal emotion. And the challenge was, like, how do we just not make it senseless revenge? How do we give it a spine? How do we create a hero that's fighting for something, for his mother, for justice, when, you know, in a world where justice is only, you know, for the privileged.
The movie is set in India. You grew up in England. That what kind of vision of India do you want to create with the movie?
It's kind of set in a heightened world, you know, this fictional city called Yatana, which is derived from the Sanskrit word, which means purgatory. And for me, it's drawing on some of my experiences in India, but also it's a bit more comic book in senses, but it's, you know, it's dealing with issues of the caste system, you know, religion, violence against women, police brutality. But at its core, it's a story of the kind of marginalized and underdogs, you know, the overlooked, banding together to challenge the gods of society.
You choose to play the main character. You have to direct the movie. It's many, many tasks for a first experience. Then how to keep the control of the project?
It's very difficult. In a way, starring and directing, you lose a lot of control because I'm not one to go back behind the camera and spend a lot of time, you know, watching what I do. I set up, there's a lot of prep, and then we go, and I trust my guys to kind of hit where we've been planning, and as an actor, I've got a good sense of where the camera is now, you know, in this process. So that way you're giving up control, and then in the more kind of nefarious side, you have more control because you are the star of the film. So that means there's a bit of leverage you hold. And so, you know, you're the insurance policy to make sure that, you know, I'm not going to let this thing go, and I'm not going to endorse it until I really believe in it.
As a moviegoer, what were your main influences, the directors you love and you have in mind for the movie?
This is a kind of crazy concoction of everything from, you know, the Bollywood films I was exposed to as a child, to watching Bruce Lee, you know, growing up, and Jackie Chan, Jet Li, Wong Kar-wai movies, to, you know, the Korean revenge cinema that totally changed my life. It's all of those things. And then my experiences as an actor, you know, having a front row seat to watching Danny Boyle, David Lowery, Garth Davis, Wes Anderson, like all of those have kind of bled into this.
Of course, in a revenge movie, there is a crucial question, how to film violence. What was your approach?
For me, it was like trying to capture the essence of desperation, you know, trying not to make it feel too choreographed, but truly make it feel primal and like that you're looking at this man desperate, like a caged, cornered animal who will do anything to survive in a real life or death situation.
What did you learn from this experience? And do you think it will change your work as an actor?
I guess, I don't know. Well, what I learned was, you know, films take a lot of long time. That's what I learned. You know, just to keep holding on to your dream. You know, there's so many times when we faced absolute catastrophe with this. And there was times when I thought I would have to say goodbye to it. And I'm glad I held on even by just one fingernail by the end. But you hold on to your vision and through thick and thin.
Well, congrats, Dan, and thank you for the movie.
Thank you.
And thank you for this conversation. Thank you
very much.
En résumé, il a grandi avec les films de Hollywood, il a grandi avec Bruce Lee, il a grandi avec Jet Li, mais il a aussi grandi avec Wong Kar-wai. Et puis évidemment, il a eu l'expérience de bosser avec Danny Boyle, Wes Anderson et tous ceux qu'il a cités. Il y a la question de la violence, pas une violence chorégraphiée et une violence qui soit légitimée par le personnage. Et ça revient souvent, c'est le fait que vous me disiez, tiens, ça pourrait être un scénario de Luc Besson, ou ça pourrait, j'ai entendu dire, c'est dire, oui, ça doit être un John Wick en Inde. Si ce n'est que il y a quand même, je ne dis pas que le film est une grande enquête sociologique, mais le fait qu'il y ait vraiment cette dimension de caste et de différence sociale, et que ce soit pour le personnage principal une affaire de vie ou de mort, parce que il emploie bien le mot underdog, enfin on pourrait dire maverick, ce sont vraiment les moins criants de la société, et que ça devienne une cette vengeance de
quoi, c'est les,
une
les
affaire
a,
de
les intouchables.
Oh, voilà, c'est pas précisé parce qu'il dit que la ville est imaginaire et qu'il y a aussi une influence de comic book, tout ça est mêlé, mais ce qui est aussi, ce qu'il raconte et qui est intéressant, c'est évidemment, c'est pas seulement être devant la caméra, c'est qu'il exécute des combats, enfin, de manière, il y a quand même une préparation physique très très forte, mais il disait, je n'allais pas tout le temps derrière la caméra regarder ce que j'avais filmé, je mets en place les choses et puis après je fais confiance à mon équipe. Et c'est pour ça que je trouve le film a une dimension assez organique. En fait, moi, c'est le prototype de film qui a priori ne me tente pas énormément, mais il y a sa façon de filmer et sa façon de montrer la rage du personnage. On n'est pas non plus dans un Liam Neeson, enfin on n'est pas dans quelqu'un, on sent que il a voulu beaucoup nourrir ce personnage principal, et quand il dit qu'il a grandi et qu'il adore ce genre de cinéma, parce qu'il dit effectivement, ça, c'est une sorte de fantasme que de toute façon on n'accomplit pas dans la vraie vie, soit on devient fou, soit on vole en prison, mais il y a une espèce d'instinct primaire chez l'homme, de quasi animal, comme quand il emploie l'expression ce type est comme un fauve en cage. Il y a quelque chose d'animal en nous qui effectivement appelle à la vengeance. Et donc je trouve qu'il y a une dimension organique dans le film qui rend le personnage assez attachant et qui donne envie de voir comment il mène son chemin vers les pour essayer de rejoindre justement ceux qui étaient a priori inatteignables.
Et donc, c'est sa première expérience.
Première expérience. Et il dit bien que ça n'a pas été facile. Et effectivement.
Et il s'est fait conseiller.
Ouais, attendez.
Et pour le coup, vous avez rencontré, d'une pierre deux coups, alors, celui qui l'a accompagné dans ce projet.
Oui. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a une tapée de producteurs. C'est distribué sous la bannière d'un grand studio, Universal. On sent que le film a été difficile. Il le dit lui-même, hein. C'était une aventure. J'ai l'impression que je frôlais la catastrophe. Et parmi ceux qui sont mentionnés comme producteurs exécutifs, mais évidemment maintenant qui sont terriblement mis en avant, il y a Jordan Peele, le cinéaste afro-américain
de Get Out,
de Us, et qui a été perçu comme le type qui révolutionnait le cinéma d'horreur à Hollywood, même si à chaque film c'était moins intéressant.
Ce que vous n'avez pas manqué de lui dire.
Voilà. Mais j'ai surtout...
Et il vous a répondu, as the one, hein.
Je lui ai surtout demandé, mais ok, dans ce cas-ci, producteur exécutif, ça signifie quoi? Est-ce qu'on met son nom sur un paquet de confiture pour dire plus de goût? Non, je lui ai pas dit ça comme ça, mais voilà, quelle a été sa véritable implication dans un projet comme celui-là d'un jeune acteur anglais? On l'écoute.
Well, you know, I got to first see the film when it was about 90% complete. Dev showed me a cut. And he was at a point where most directors get of near defeat. And I just, I saw this incredible film and this incredible effort that he and his crew had put together. It reminded me of a time when movies were good, quite frankly. Reminded me of like the 90s and 80s, 70s, when films were complete and scrappy and movies.
Did you give him some advice for finishing the movie?
Yeah, I mean, I gave a lot of advice, and you know, some good, some bad. The good. He was smart enough to take the good and leave the bad. I knew that he was in a place where he needed a team like Monkey Paw Productions and Universal to support him in completing his vision. Monkey Man feels like a film that wasn't supposed to exist, in at least in Hollywood.
Let's talk about Hollywood. How to experiment new ideas in this system, how to try to create prototypes in this system, or where the blockbusters are the main system nowadays?
Yeah, the business of Hollywood is hard to pin down, obviously, in this kind of turbulent time and with streaming. What we do at Monkey Paw is, you know, we really focus on the work and the collaborators and trust that for whatever we do, if we sort of bite off a big risk, you know, a film, like I say, that's not supposed to exist, and we try to execute it in a way that connects to our audience, and which we think of as everyone, then you'll get something special. And then from there, you work from there. That can happen with expensive cast. It can happen with new coming cast. It can happen any kind of way. A great film can come about any type of way.
Jordan Peele.
Est-ce qu'il répète plusieurs fois, ce film n'aurait pas dû exister? Donc on est arrivé dans ce système hollywoodien où on sait bien que c'est des blockbusters ou des films de plateforme. Initialement, le film allait sans doute aboutir sur une plateforme, mais de par le coup de pouce de Jordan Peele, il a une sortie salle et il dit justement, on est dans une période très très troublée justement avec la concurrence du streaming, et il dit, ce film ne devrait pas exister et on a fait en sorte qu'il puisse concerner notre public. En fait, ce qui se passe, comme tout est devenu tellement marketé, c'est qu'il faut le positionner. Et j'imagine bien qu'aux USA, un film de vengeance, mais fait par un acteur anglais d'origine indienne, avec une culture et un background qui est entièrement indien, ils sont paumés, ils ne savent pas comment le positionner. En John Wick, oui, parce que les références sont clairement américaines. Ici, justement, il y a ce mélange de gens, et c'est pour ça que je trouve le film plus intéressant, c'est parce qu'il y a cette espèce de mélange de gens entre un film de genre, une série B avec les rebondissements d'une série B, mais en même temps cette espèce de vision quand même d'une civilisation et d'une société. Et évidemment, voilà, Jordan Peele était estomaqué par très sincèrement, il n'était pas obligé d'y aller, estomaqué par le film et par le talent de réalisateur de Dev Patel pour un premier film. Je peux vous dire, il y a des scènes qui déménagent et qui sont diablement bien orchestrées. Et c'est comment le faire exister. Alors, est-ce que ça peut marcher sur les écrans américains? Mystère. Mais en attendant, comme carte de visite pour Dev Patel, qui est finalement arrivé au bout de son aventure et de pouvoir prouver qu'il est capable de réaliser des films, là, je pense que comme carte de visite, ça fonctionnera diablement bien. Parce que, évidemment, les critiques de magazines spécialisés qui aiment ce genre de film disent que, voilà, il n'a absolument pas à rougir de la comparaison avec certains films d'action beaucoup plus richement dotés. Et, voilà. Mais donc, Jordan Peele qui arrive à 90%, mais que Dev Patel dit, est-ce que tu veux bien regarder mon montage, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui va. C'est intéressant quand même que un cinéaste aille comme ça aider quelqu'un qui est tout à fait loin de lui a priori et aide à faire aboutir le film. Voilà, donc ça s'intitule Monkey Man. Ça sort ce mercredi et comme on avait commencé la semaine avec le drame sur l'école Pas de Vague avec François Civil dont on a parlé hier, je pense qu'on y distribue des bons bulletins. Je distribue volontiers deux bons bulletins. Un pour l'acteur parce qu'il est farouchement charismatique et un pour le réalisateur. Voilà, au-delà de ça, c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre impérissable, mais comme on dit, c'est prometteur. On sent que
Promising directing debut.
Voilà, debut, promising debut. Voilà, donc Monkey Man, c'est ce mercredi, mon cher Rudy.
Bien, demain. À propos de beaux bulletins, j'ai reçu énormément de remarques suite à l'émission d'hier et à l'absence de l'évocation de l'album événement du week-end, qui était l'album de Beyoncé.
Ah oui.
Alors je me suis dit oui, mais...
C'était la trêve pascale quand même, ouais, on n'était pas obligé tout de suite de... Hein, bon, on a...
Surtout je voulais pas avoir des Jay-Z cloués sur la porte de ma maison.
Soyons prudents quand même. Hein.
Allons-y.
Oui.
Donc... est sorti.
Ghost Country, donc Beyoncé.
Oui, oui, donc c'est le deuxième volet d'une trilogie.
Helmut Ghost Metal, mais oui, Beyoncé Ghost Country.
Ghost Country.
D'accord, oui.
Deuxième volet de ce qui serait une trilogie. Le premier album, c'est Renaissance, qui est sorti il y a 2 ans. Cette année, Cowboy Carter, c'est donc cet album country sorti ce week-end. On imagine que dans 2 ans, voire avant, il y aura le troisième volet de cette trilogie.
Alors, Cowboy Carter.
Cowboy Carter. Alors, c'est quoi Cowboy Carter? C'est en fait, un album, on l'a compris, on l'a beaucoup commenté, de musique country, mais pas que, il y a aussi un peu de soul, de hip-hop, voire de square dance aussi, mais enfin c'est majoritairement country, et majoritairement aussi élaboré, conçu autour de reprises du répertoire traditionnel. Album riche, hein, enfin copieux,
oui.
27 titres.
Oh
27 titres.
27
titres.
27
titres, oui.
Enfin, et donc, quand ça sort en vinyle, il en faut 3, alors.
Double, oui.
Double.
Oui, double ou plus. Ouais. Je n'ai pas poussé la curiosité jusque-là.
Je vous en prie.
Et donc, la critique est absolument élogieuse. C'est une pluie d'éloges autour de cet album Cowboy Carter. On nous dit même que Beyoncé, tenez-vous bien, Beyoncé, je cite, redéfinit les frontières de la country.
Allons bon.
Je me suis dit, oui, mais c'est un peu comme si on disait que Danny Briand redéfinit les frontières de la salsa lorsqu'il va enregistrer à Cuba son album Havana.
Oui.
C'est comme si on nous disait que Natacha Saint-Pierre redéfinit quelque part les frontières de la foi.
De la foi,
avec
oui.
ses albums de
Sainte Thérèse de Lisieux.
Oui. Le texte de Sainte Thérèse de Lisieux.
Oui.
C'est juste une réinterprétation avec quelqu'un qui effectivement sait chanter à peu près tout n'importe quoi,
et qui
le bottin est de la country.
Et qui écrit des bricoles comme ça, des médias sérieux.
Non, tout le monde. Tout le monde se couche.
Ah oui.
Tout le monde se couche, évidemment.
Ah.
Et voilà, alors qu'on sent bien que derrière ça, il y a quoi? Il y a un truc qui l'empêche véritablement de dormir, c'est le succès incontrôlé de Taylor Swift,
oui.
Et surtout tous les records qu'elle accumule et derrière lesquels Beyoncé, quelque part, essaye de courir et elle essaye de rattraper. Rien que cette histoire de concert filmé en salle, où elle a essayé d'imposer les mêmes règles, les mêmes tarifs, mêmes conditions. Les salles n'en ont pas voulu, en tout cas, pas aux mêmes conditions que Taylor Swift. Et donc, voilà, ça donne cet album, dont une chose est vraiment réussie, très très réussie, c'est la pochette. Et c'est toutes les photos qui accompagnent. Là, on sent qu'elle s'est entourée d'une équipe de dingues, de stylisme. Enfin, la coiffure, ses longs cheveux avec extension, blond cendré, c'est absolument, absolument dingue. Maintenant, au niveau du track, il y a notamment une reprise du classique de Dolly Parton, Jolene, qui est une chanson qui doit avoir
ça. Et il y a Willie Nelson.
Il y a des participations, il y a Willie, il y a tout le monde qui est là pour un peu... Vous savez, c'est comme quand on a besoin de mettre des tuteurs pour que ça tienne bien droit. Voilà, ils sont venus jouer les tuteurs. Donc, elle reprend Jolene. C'est une chanson donc qui a 50 ans. C'est plus qu'un classique, c'est un hymne. Et cette chanson a été reprise 265 fois déjà.
Ah ouais.
Donc, c'est la 266e version qui n'apporte strictement rien aux 265 précédentes, sinon qu'elle est signée Beyoncé. Voilà, Beyoncé sur son album Cowboy Carter.
Et donc ça repousse Jolene. Les limites
ça repousse les limites de la country.
Ah oui.
Mais je pense qu'elle essaye surtout de repousser les limites de son public qui est parfois un peu...
Un peu trop R&B étriqué.
Un peu trop. Enfin, c'est une grosse niche, mais un peu niche quand même. Déjà, il y a 3 ans, elle avait lancé sa collection de vêtements un peu cow-boy chez Adidas. Ça s'appelait Rodeo. Ça avait relativement fonctionné. Donc voilà, on continue à draguer auprès d'un autre public.
Mais je me souvenais d'une autre tentative, c'était au cinéma, c'était pour la comédie musicale Dreamgirls. Et à l'époque, on devait dire, elle va breaker au cinéma grâce à ça. Et patatras, pas de chance pour elle, c'était une des second rôle, une des choristes, une noire très, très opulente, qui avait été, dont le nom m'échappe, parce que comme ça, on en discute de manière tout à fait impromptue. Et ce second rôle, elle crevait vraiment l'écran et elle aboutit aux Oscars avec Oscar de meilleur second rôle, ce qui évidemment avait totalement déprimé Beyoncé, puisque Dreamgirls n'avait pas été le break tant attendu. Voilà. C'est en train d'essayer de retrouver le nom de l'actrice. On le retrouve.
Jennifer Hudson.
Ouais, absolument. Jennifer Hudson, absolument. Voilà. Comme quoi,
continue à faire du cognac, Jay.
Alors, parmi les autres films américains qui sortent ce mercredi, il y a une petite surprise, une petite curiosité. Ça s'intitule Drive Away Dolls. Et c'est une curiosité dans la mesure où c'est le premier film réalisé par Ethan Coen, mais sans son frère, sans Joel.
C'est comme si Jean-Pierre Dardenne faisait un film sans Luc.
Oui, exactement. Exactement. Et toujours est-il que Joel avait tiré le premier parce qu'il avait déjà réalisé une adaptation de Macbeth avec sa femme, Frances McDormand, et avec Denzel Washington. Film très arty, en noir et blanc, reprenant fidèlement la partition, mais les textes de Shakespeare. C'est pas ce que Joel Cohen a fait de plus accessible. Donc, pendant ce temps, je pense pas qu'ils sont fâchés. Ils ont simplement ils ont des projets qui sont différents et donc ils font chacun un pas de côté. Et là, ce Drive Away Dolls, eh bien, Ethan Cohen l'a écrit avec sa femme, qui s'appelle Tricia Cook et qui est donc co-scénariste et coproductrice du film. De quoi s'agit-il? Eh bien, il est question, c'est à la fois un film de course-poursuite, une love story lesbienne et une comédie loufoque, le tout en un, en 1h24. Alors, tout part d'un quiproquo. Dans une comédie loufoque, il faut un quiproquo. Et, eh bien, justement, on suit un couple de copines. Il y a Jamie, qui est une lesbienne très libérée et très, très portée sur le plaisir sexuel, mais qui vient de rompre avec sa copine et elle a envie de se changer les idées. Et alors, elle accompagne une amie, Marianne, qui est une amie, qui n'est pas sa copine, qui est beaucoup, beaucoup plus sérieuse, qui lit comme loisir, elle lit Les Européens d'Henry James, ce qui donne tout de suite une idée de son, de ses centres d'intérêt. Elle n'est pas là vraiment pour rigoler. Et à deux, elles veulent faire un voyage, aller voir la tante de Marianne Tallahassee en Floride. Pour ce faire, ils doivent louer une voiture et elles partent avec une... C'est parti, face au Thelma et Louise, elles partent à l'aventure vers la Floride. Le problème est que le garagiste, joué par l'excellent Bill Camp, éternel second rôle du cinéma américain, le garagiste s'est gouré. En fait, il a donné une voiture en pensant la donner à un membre d'une bande de gangsters, et quand les gangsters arrivent, la voiture n'est plus là. Or, cette voiture contient une cargaison très très précieuse.
Elle est garnie, la voiture.
Elle est garnie.
À l'intérieur des portes.
Voilà, voilà. Et donc les deux jeunes filles en goguette ne savent pas qu'elles vont être maintenant pourchassées par des tueurs à gages qui veulent récupérer la voiture et sa précieuse cargaison. Voilà pour le fil conducteur du film. Alors, vous l'avez vu également, et vous m'avez fait une réflexion qui m'a titillé, mon cher Rudy, me dire c'est marrant parce qu'on a l'impression d'une espèce d'opportunisme un peu LGBT voilà, avec cet éloge comme ça de la liberté sexuelle,
avec aussi de l'inclusivité ethnique et,
oui, puisqu'il y a une,
et body positive.
Il y a une actrice donc l'actrice principale c'est Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell qui a été découverte dans la formidable série Made et qui depuis lors tourne des clips, je pense.
Oui, avec son mari Jack Antonoff.
Avec son mari Jack Antonoff. Et il y a dans le rôle de la copine très sérieuse qu'il y a Henry James, c'est bien Geraldine Viswanathan.
Très très bien.
Qui est très formidable, qui est d'origine indienne et qu'on avait vu dans Cat Person, ce film qu'on a évoqué récemment. Et alors dans le rôle de l'ancienne copine de la lesbienne libérée, on a Benny Falstein, qui n'est autre que la sœur de Jonah Hill, et qu'on a vu dans Booksmart. Donc, en gros, on a une très très jolie fille, on a une fille tout à fait avenante, mais très sérieuse et, dans le film, entre guillemets, très coincée d'origine indienne, et on a Benny Falstein, qui est, on va dire, assez volumineuse, donc voilà.
Très ronde, et qui est policière. Donc voilà. Le cliché de, la femme lesbienne en uniforme.
Et vous me disiez, mais c'est quand même incroyable, est-ce qu'il n'y a pas quand même de l'opportunisme? Et il se fait que j'ai brièvement interviewé les trois actrices ensemble, à distance, et en fait, Margaret Qualley me révélait que c'était un vieux projet de Ethan Coen, qu'il a écrit ce scénario, il écrivait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas abouti chez eux. Ils avaient écrit, par exemple, Suburbicon, qui est un scénario qui a été finalement mis en scène par George Clooney. Donc, ils écrivent énormément dans toutes les directions, et il avait écrit ce scénario avec sa femme il y a une dizaine d'années, voire plus, et il attendait le bon moment pour le tourner. Donc, quelque part, quand on dit ça, on rejoint un petit peu ce que vous dites, c'est, allez, maintenant, je vais y aller, j'ai une chance
on
que...
On peut atterrir, c'est
on
bon.
On peut atterrir, j'ai une chance que ça draine un public aux USA plus ouvert, et qu'on ait peut-être une distribution un peu plus large. Oui, moi je veux bien, mais en fait, moi j'ai eu un sentiment bizarre en voyant le film. J'ai eu l'impression que c'était un ou une jeune réalisatrice qui avait beaucoup vu les films des frères Coen, et que ça aurait été produit... mais un peu à la Jordan Peele, qui aurait été en production exécutive. Une production exécutive, et que Ethan Coen aurait ajouté « Ethan Coen présente Drive Away Dolls ». C'est-à-dire qu'il y a un peu toutes les scènes, aussi toutes les, pas obligatoires, mais toutes les scènes qui ont un peu fait la griffe des frères Coen, les tueurs à gages, qui sont des bras cassés, mais ça fait évidemment penser à Fargo, il n'y a rien à faire, c'est un univers qui... Mais donc tout ça en mode mineur, et un peu en mode... photocopie, mais photocopie de la photocopie de la photocopie, où ça commence,
à chaque passage,
ça commence à être un peu plus gris. Voilà. Donc, c'est un peu ça le problème. Il y a ça. Et alors, les trois actrices sont tout à fait épatantes. Simplement, on sent que c'est tellement, c'est aussi une question que je leur posais. Est-ce que vous avez un peu de liberté sur le tournage, pour vous avez dialogué avec lui pour construire les personnages? Non, en fait, le type, c'était un projet qu'il a tellement polissé dans son coin que on sent que chaque mouvement de caméra, chaque travelling, chaque même passage de dans le montage, on termine sur un objet, on commence sur un autre, on sent que le film était prémonté avant d'être tourné. Donc ça ne laisse aucune espèce de liberté pour l'acteur qui est dans une sorte de cage dorée. Francis Weber en France fonctionnait comme ça aussi, c'était tellement tellement millimétré que les comédiens n'avaient aucune marge de manœuvre. Et là on sent que elle dit bah à ce moment-là, tiens, tu utilises tel objet, tu vas le brandir et puis tu vas faire ha ha ha. Enfin, on a presque ça, on a le sentiment que les acteurs sont presque des marionnettes au service du fantasme du réalisateur. Donc tout ça
qui lui, je pense, a l'impression que il y a de l'audace. Oui. Et en fait non.
Non, c'est-à-dire que il faut faire.
Vous savez, comme gag, quand vous avez la fille qui laisse tomber sa valise, qui s'ouvre dans le hall de l'hôtel.
Et qu'il y a un god qui en sort.
Et qu'il y a des vibromasseurs, des godes qui en sortent.
Oui. Mais il y a eu Judas Pato est passé par là.
1993, quoi.
Oui, c'est ça. Et le problème est qu'en fait, je pense que le scénario a tellement traîné qu'il a pris de la poussière et cette poussière a rendu tout gris et à la limite, il faut bien dire un peu ringard, quoi. Donc c'est quelqu'un qui croit que justement il est, et je crois que c'est assez sincère de sa part, parce que on parlait d'opportunisme, sont des types qui ont toujours travailler à la marge, hein. Ils sont pas les rois de la fête. Aux USA, la plupart du temps, ils ont été produits par Studio Canal ou par Working Title. Ils sont plutôt marginaux. Et là, il se dit, allez, je peux enfin le faire. On est content pour lui, mais honnêtement, le plaisir n'est pas fort au rendez-vous. Donc voilà, ça sort également ce mercredi. Ceux qui ont envie de suivre la carrière de Margaret Qualley, qui est fort, fort, fort charmante, et des deux autres actrices, Geraldine Viswanathan et Beanie Feldstein, on se dit, elles ont clairement du potentiel, mais si on les laisse pas vivre ce potentiel, forcément, c'est plus difficile, quoi. Voilà, donc c'est un peu corseté, c'est pas inavouable, mais c'est pas très passionnant. Non.
Émission compliquée aujourd'hui, hein, parce qu'en 20 minutes, on vient quand même de se faire Beyoncé et un des frères Cohen.
Oui, mais à côté de
émission
ça...
Émission compliquée.
À côté de ça, on est allé vers le talent méconnu de réalisateur de Dev Patel. Voilà.
Juste.
Et je peux vous dire...
Que allez-y.
Le distributeur avait envie de me proposer Dev Patel, mais il osait pas trop, parce qu'il dit... D'ailleurs, un revenge movie, un John Wick indien. Eh bien non, il faut s'ouvrir à tout. La semaine prochaine, j'aurai encore une surprise pour vous dans les sorties. Une comédie française, mais vraiment drôle et vraiment moderne. Donc voilà, donc tout est possible.
Donc je vais encore rester une semaine, parce que je me tâtais. Dis, voilà. À propos de faire découvrir... Bon, si c'était pas Beyoncé, vous l'avez compris, mon album du week-end, c'était quoi?
Oui.
C'était.
Et pas Sylvie Crutch, puisqu'il y avait
qu'un
morceau.
Il n'y a pas d'album, il n'y a qu'un morceau. Voilà. C'était quoi? C'est l'album d'une New-Yorkaise dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Blue the Tiger. C'est son vrai nom, hein. Son prénom, c'est Blue. C'est son grand frère qui a choisi quand il était petit.
Oui.
Je veux qu'elle s'appelle Blue, les parents disent OK. Et de Tiger, c'est parce qu'elle a des origines germaniques à la base de par son grand-père ou arrière-grand-père, qui s'appelait de Ticker, Rex de Ticker.
Ah oui.
Oui. Et donc, avec.
Un peu comme Tour et Taxi qui vient de Thorn, un taxi, ça.
Voilà. Donc, ça s'est un peu anglicisé de génération en génération. Donc, elle l'a fini par de Tiger et elle s'appelle Blue de Tiger. Au départ, cette fille est bassiste. Elle s'est faite connaître en donnant des tutos de basse sur TikTok. Énormément de vues. Elle était repérée par la marque Fender qui a dit, mais cette fille, elle joue incroyablement bien. Ils l'ont prise un peu comme ambassadrice. Elle a d'ailleurs sa basse Fender qu'elle a conçue avec la marque. Elle a été bassiste dans pas mal de groupes où elle est partie en tournée. Elle a joué en studio. Et là, elle sort son premier album en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, autrice, compositrice, évidemment bassiste. Et tout l'album est imprégné d'une sorte de tempo et de groove absolument incroyable du fait qu'elle utilise la basse et qu'elle a vraiment construit ses chansons autour de cet instrument. Mm-hmm. Pour le magazine Forbes, elle fait partie de la fameuse liste 30 under 30, ça veut dire 30 personnalités de moins de 30 ans qui auront leur mot à dire sur l'année à venir.
Ah oui.
Et elle est considérée comme une de ces personnalités qui, dans son domaine, va vraiment marquer l'année qui arrive. On l'espère.
Concert avec... à la clé?
Pas
encore.
Pour l'instant. Elle est déjà venue aux Nuits Botaniques il y a deux ans, je pense, parce qu'elle est dans le circuit depuis un moment. Mais là, c'est son premier vrai grand disque qui sort. Et elle est une spécialiste de ce qu'on appelle le slapping. C'est-à-dire, elle joue de la basse en frappant sur les cordes plutôt qu'en les pinçant. Ce qui fait que, par certains angles, ça sonne parfois un peu comme du Level 42. Blue the Tiger. Blue the Tiger, la chanson ici a pour nom Disappearing, et son album a pour nom All I Ever Want Is Everything. Et ça sort chez nous, contrairement chez Universal, contrairement à l'album de Chappell Roan, qui est toujours pas sorti.
D'accord, comme ça c'est bien clair. Eh bien on va essayer d'être...
Oui, enfin c'est juste clair pour moi.
Non, mais c'est très bien.
Attendez, je me disais, mais pourquoi Chappell Roan, elle vient partout en Europe, elle fait les premières parties d'Olivia Rodrigo, pour l'instant aux États-Unis, ça a l'air un truc de dingue. Elle fait sa tournée à elle dans des clubs en Europe, elle passe par Paris, Amsterdam, et pourquoi pas Bruxelles. Et puis un jour mon frein est tombé, je me suis dit, mais oui, évidemment, son album n'est même pas sorti chez nous.
Oh.
Donc pourquoi elle viendrait ?
Le monde n'est pas toujours très bien fait. Alors, pour justement, là c'est clair, on va essayer d'être clair par rapport à demain aussi.
Demain on n'est pas là,
demain,
mais on est quand même là.
À 19h, vous retrouverez le Eddie Cackelbert Show en direct de la Foire du Livre avec une pléiade d'invités que c'est que ceux qui sont là pour la soirée d'ouverture.
Oui. Donc pas nous.
Pas nous. Non, nous n'avons rien publié, pas nous. Par contre, ceux qui nous écoutent ou nous rattrapent régulièrement en podcast, eh bien, demain, dans la soirée, un podcast sera disponible, podcast du mercredi 3 avril, avec des nouveautés, des nouveautés plateformes.
Enfin, en fait, on fera un peu comme dans Tandem.
Voilà.
L'émission ne sera pas sur antenne,
voilà.
Mais elle sera quand même
toujours en hommage
réalisée.
À Tandem de Patrice Lecomte. Voilà. On cause tout seul devant le micro et il y aura quand même une émission disponible en podcast.
Une sorte d'émission Deliveroo.
Voilà, en quelque sorte.
Donc, pas sur antenne, mais il y aura bien un podcast complet
disponible sur Ovio et au-delà.
Exactement.
Comme ça qu'on dit, « From Beyond ».
Merci Antoine Duhart pour ce bout de chemin, ce mardi soir. Merci mon cher Hugues. Vous savez, je voulais qu'on termine aujourd'hui parce que on est quand même fidèles à 5 heures.
Oui.
Voilà. Et ça fait 2 ans que Michel, le vrai Michel...
Ah,
vous vous souvenez
le Michel, oui.
Le Michel. Celui qui chantait quand j'étais rappeur.
Oui, oui.
Paradis Blanc.
Oui,
voilà.
Oui.
Michel qui chantait.
De Maubeuge, non?
Oui.
Oui.
Enfin, il est du Nord.
Oui.
Ça fait 2 ans qu'il n'a rien fait, rien produit, alors qu'à une époque, on en parlait quasiment chaque semaine.
Oui.
Extraordinaire.
Encore plus que Philippe Catherine.
Oui. C'est vrai.
C'est vrai.
C'est un peu une sorte de grand-père de Oscar les Vacances.
Oui, voilà.
Et donc, après un très très long silence, pratiquement 2 ans, je le disais, il est revenu jeudi dernier avec une chanson qui a pour nom, et elle est sortie jeudi à minuit, donc elle s'appelle Jeudi Minuit, et c'est le nouveau vrai Michel.
Ah.
Alors, à qui on souhaite évidemment tout le meilleur.
Oh,
allez, Michel. Et à demain en podcast.
À demain.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.